Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour le service protestant en ce jeudi de l'Ascension. Alors que le déconfinement a eu lieu depuis plus d'une semaine, la production de nos émissions est toujours à l'arrêt. Alors je vous propose de nouveau une rediffusion avec ce culte de l'Ascension, conduit par le pasteur Jean-Luc Gadreau de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France. Et je vous retrouve en fin d'émission pour un temps de prière et d'annonce.
Bienvenue dans ce moment que nous allons partager ensemble, donc en ce jeudi matin. Que vous soyez d'ailleurs volontairement à l'écoute maintenant de ce service protestant ou bien juste de passage, j'aimerais vous inviter à prendre ce temps comme une occasion qui nous est donnée de nous poser, réfléchir et regarder plus haut. En effet, il y a de la verticalité aujourd'hui au menu de cette journée. Et justement, eh bien, écoutons ce que nous dit dans la Bible le psaume 121, et je vous propose de l'écouter tout d'abord en musique.
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux.
Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied vienne à trébucher, car celui qui te garde ne sommeille jamais. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton protecteur, le Seigneur est ton ombre. Il est à ta main droite, et le soleil durant le jour ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te préservera de tout malheur, il veille sur ton âme. Le Seigneur veillera sur ton départ et ton retour, dès maintenant et à jamais.
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours.
Mon introduction évoquait donc, en ce jour de l'Ascension, la notion de verticalité. Et ce psaume va dans ce sens en nous invitant justement à élever notre regard vers le haut des montagnes. Alors il n'y a pas forcément de montagnes, bien sûr, autour de vous, en fonction évidemment du lieu où vous vous trouvez, mais il y a surtout une image qui nous est proposée là, une forme de métaphore, celle de ne pas rester dans l'horizontalité de nos vies, mais de savoir prendre de la hauteur. Alors non pas forcément en nous élevant nous-mêmes, mais en élevant notre regard et en se fixant sur autre chose, une autre chose qui vient d'en haut. Si l'Ascension est une fête religieuse, qui nous vaut d'ailleurs un jour férié et parfois même un pont de 4 jours, beaucoup de nos contemporains ignorent que c'est en fait le jour où l'on commémore traditionnellement la montée au ciel de Jésus, 40 jours après sa résurrection. Alors lisons donc cette histoire que nous trouvons dans le livre des Actes, au chapitre 1er, les versets 3 à 14.
Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et lui demandent : Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Jésus leur répond : Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide de cela. Lui seul a le pouvoir de faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, deux hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres, « Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel. Pourquoi donc ? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel. Il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. »
Saurais-je me passer de toi ? De toi à présent ? De toi visible ? De toi proche ? De toi sensible, agrandis les yeux de ma foi. C'est le temps de la patience, de la rude et lente espérance en l'esprit qui loge à demeure, l'éternel qui jamais ne meurt. Tu as marché sur nos chemins une quarantaine de mois, partageant nos peines, nos joies, et parfois nous tendant la main. Nul ne devrait se satisfaire d'un lieu de passage sur terre pour une durée presque vaine, à moins qu'enfin il ne revienne parmi nous, ce Dieu à jamais. À moins qu'enfin il ne revienne parmi nous, ce Dieu à jamais.
Alors je lisais récemment ce que disait une collègue pasteur en Suisse à propos de cette histoire que nous venons d'entendre. Elle le disait d'ailleurs de façon très imagée et actuelle. Je vous le partage. Un mot qui me vient toujours lorsqu'on parle de l'ascension, c'est le mot « ascenseur ». Cette image d'un Dieu qui descend à travers Jésus, qui se fait chair dans le monde, qui marche à côté de nous et qui traverse tout ce qu'on vit. Et puis il y a cette deuxième image avec, évidemment, l'ascenseur qui remonte. Jésus qui remonte rejoindre le Père après sa mort. Et c'est comme si l'ascension était cette image pour exprimer cette montée et cette descente possible. Cette voie qui s'est ouverte entre le Dieu Père, le Dieu Créateur, celui qui est insaisissable, et celui qui s'est fait connaître juste à côté de nous. Alors elle parle donc de descente, de montée, de redescente, finalement une présence incessante de Dieu pour l'homme. Et une ascension qui n'est donc pas véritablement un départ, mais plus une continuité, un va-et-vient constant, libérant pleinement les disciples de Jésus-Christ, que nous pouvons être nous aussi aujourd'hui encore, dans ce qui leur revient d'être et de faire sur la terre, envoyés et conduits par Dieu. Dans l'Ancien Testament, plus précisément dans la Genèse, au chapitre 28, un homme, qui est l'un des pères fondateurs du peuple juif, Jacob, va avoir un jour une vision, ressemblant quelque peu à cette image de l'ascenseur que nous venons d'évoquer. Alors, ce qu'il voit, bien sûr, correspond évidemment davantage à ce qu'il connaissait à l'époque, et c'est donc d'une échelle dont il s'agit. Le texte nous dit « Il rêva qu'il y avait une échelle reposant sur la terre et dont l'autre extrémité atteignait le ciel. Et il aperçut les anges de Dieu qui la montaient et la descendaient. Et il vit Dieu qui se trouvait en haut. » Et donc Dieu, dans cette vision, va lui parler et entre autres lui dire « Vois, je suis avec toi et te protégerai là où que tu ailles. Je ne te laisserai pas. » Alors ce sont des paroles qui font évidemment un écho particulièrement intéressant à ce que les disciples virent et entendirent de Jésus alors qu'il monta vers le ciel. Et puis alors plusieurs passages des évangiles avec bien sûr le passage de l'ascension finale qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, mais aussi une autre séquence que j'aime tout spécifiquement. Elle se situe dans ces apparitions de Jésus à ses disciples dans les 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Je voudrais vous proposer d'écouter le texte auquel je fais référence là et de pouvoir vous en parler un peu afin de saisir quelques conséquences possibles à vivre pour nous encore aujourd'hui. conséquence bien sûr de cette résurrection du Seigneur. Évidemment, en restant dans la perspective de cette verticalité, cette montée et descente qui nous conduisent à aller, et qu'alors, pour aller, eh bien sûr, nous avons certains besoins qui précisément sont évoqués subtilement dans ce texte que nous allons entendre, lu dans plusieurs extraits de l'évangile de Jean au chapitre 21.
Jésus apparut encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. » « Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dirent-ils. » Et les voilà partis. Ils montent dans la barque, mais la nuit s'écoule sans qu'ils n'attrapent un seul poisson. Déjà le jour commence à se lever. Jésus est là, debout, sur le rivage. Mais les disciples ne se doutent pas que c'est lui. Il les appelle. « Hé, les enfants, vous avez quelque chose à manger ?»« Rien du tout, lui dirent-ils. « Jetez donc le filet du côté droit de la barque, leur dirent-ils. Alors vous ferez une bonne prise. » Ils le lancent, et voilà qu'ils prennent tant de poissons qu'ils n'arrivent plus à hisser le filet. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'est le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remet et se jette à l'eau. Les autres disciples regagnent la rive avec la barque, en remorquant le filet plein de poissons, car ils ne sont qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez-moi encore de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonte dans la barque et tire le filet à terre. Il les remplit de 153 gros poissons, et malgré la quantité, le filet ne se déchire pas. « Venez déjeuner, leur dit Jésus. » Il s'assoit, mais aucun d'eux n'ose lui demander « Qui es-tu ?» Ils savent bien que c'est le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et leur distribue, puis il fait de même pour le poisson. C'est déjà la troisième fois depuis sa résurrection que Jésus apparaît à ses disciples. Après le déjeuner, Jésus s'adresse à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais bien que je suis ton ami. » Jésus lui dit « Sois un berger pour mes agneaux. » Puis il lui redemande une deuxième fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » « Oui, Seigneur, lui répond Simon, tu sais que je suis ton ami. » Jésus lui dit « Conduis mes petites brebis. » Puis pour la troisième fois, il lui demande « Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ?» Pierre est peiné de ce que cette troisième fois il lui demande « Es-tu mon ami ?» Il lui répond « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je suis ton ami. » Jésus lui dit « Sois un berger pour mes brebis. » Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras tes bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu ne voudras pas aller. » Par ces mots, il faisait allusion au genre de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. Après avoir dit cela, il ajouta « Suis-moi. »
Quand je sens mes forces m'abandonner, la mort qui m'appelle, quand je sens mon âme se vider, c'est toi que j'appelle. C'est grâce à toi si j'en suis là, c'est grâce à toi, c'est par ton aide que je tiens debout, car seul je n'y arriverai pas,
je n'y arriverai
mais
pas,
mais avec toi j'irai jusqu'au bout.
C'est grâce à toi que je tiens debout. But what's a man to do when I'm falling for you? Gotta tell you the truth, t'es toujours dans mes pensées, always on my mind like wine dans mes foncées. tu te gâtes jamais comme du bon vin. Mais tu me gâtes avec ta douceur, enfin. I keep it French and turn pain to pain. So swallow your sorrow, say à demain. I just wanna speak up in the language of love and do what you do, turning anguish to hugs. So I guess for my bliss, you're the one to blame. Now it's time for the ship, let the Frenchman sing.
C'est dans le calme d'une partie de pêche, point de départ de toute cette histoire. Et Pierre décide d'aller à la pêche, oui, et quelques-uns des disciples choisissent, eux, de l'accompagner. Moi, si je décide d'aller à la pêche, c'est un loisir que je m'accorde. Et nous ne sommes évidemment pas dans ce contexte-là. Quand Pierre et les autres vont pêcher, ils vont travailler. C'est un retour à leur quotidien, en fait, celui d'être des pêcheurs. Pêcher du poisson pour vivre, pour en manger, pour en vendre. N'oublions pas non plus que Jésus a été crucifié. La période où ces hommes étaient des disciples s'est en quelque sorte évaporée. Et puis, en plus, l'apôtre Pierre avait trahi par 3 fois Jésus. Et pour lui, dans sa tête, sans doute aussi une forme de disqualification s'était donc opérée tout à fait naturellement. En allant en Galilée, les disciples obéissent à ce que Jésus leur a demandé quelques jours auparavant. Mais une fois là-bas, ils choisissent finalement de retourner à leur activité de pêcheurs, alors que le Seigneur leur avait dit de s'y rendre pour le voir. Toutefois, le Seigneur est fidèle, évidemment. Il ne manque jamais à ses promesses, et il va venir lui-même à leur rencontre. Et justement, la première leçon pour nous encore aujourd'hui est que le Christ ressuscité est celui qui vient à ma rencontre, dans mon quotidien, dans mes activités, dans ma vie. Quel que soit mon état, quelle que soit ma situation, il veut me rejoindre.
Alléluia, 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 alléluia.
Une nuit à pêcher en vain. Bon, quand c'est pour le plaisir, c'est un peu décevant. Mais quand c'est votre travail, votre gagne-pain, alors là, ça devient nettement plus embêtant. Et dans leur contexte, les œuvres des disciples, loin de Jésus, alors non pas physiquement, mais plutôt spirituellement, dirons-nous, sont vaines. Jésus vient, il les rejoint incognito, et remarquez bien, leur donne de revivre un épisode déjà expérimenté. Une autre pêche miraculeuse, très similaire à celle qui nous est racontée dans l'évangile de Luc au chapitre 5. Et puis au travers de ce miracle, Jésus se dévoile à nouveau. Et il leur dit en substance, tout n'est pas fini. Au contraire, la route continue, je suis toujours avec vous. La seconde leçon pour nous encore aujourd'hui est donc que le Christ ressuscité, celui qui vient à ma rencontre, est celui qui donne un impact renouvelé à ma vie, qui donne en fait un véritable sens à mon existence. Dans le prolongement de ce miracle visible, concret, un autre va se vivre. Alors lui, plus secret, plus intime. Il s'agit cette fois d'une restauration, et c'est Pierre qui va l'expérimenter. Par 3 fois, rappelez-vous, Pierre avait renié son maître. Et maintenant, par 3 fois, le Seigneur va sonder son cœur en lui posant cette question toute simple. Es-tu mon ami? Ou plus classiquement, en fonction des traductions, m'aimes-tu? C'est au verset 15, 16 et 17 du texte que nous avons entendu tout à l'heure. Il est important parfois que nos actes et nos pensées soient vraiment sondés jusqu'à la racine du mal. Sinon, celui-ci et l'amertume qui en est la conséquence bourgeonneront et produiront encore de plus mauvais fruits. Oui, c'est parfois difficile à accepter. Et c'est une étape que nous pouvons vouloir ignorer. Mais pourtant, elle est capitale. Pierre avait renié publiquement le Seigneur en disant qu'il ne le connaissait pas et il fallait une restauration publique. Cependant, dans sa grâce, eh bien, le Seigneur a commencé d'abord par nourrir son disciple, partager le repas avec lui. Et puis ce n'est qu'après qu'ils eurent déjeuné que Jésus s'adresse à nouveau à Pierre. Et Pierre va devoir répondre et finalement confesser de sa bouche devant tous son amour si imparfait pour le Seigneur. La troisième leçon pour nous encore aujourd'hui est que le Christ ressuscité, celui qui vient à ma rencontre, celui qui donne un impact à mes œuvres, du sens à ma vie, est aussi celui qui restaure mon âme, purifie mon cœur, me relève chaque fois que cela est nécessaire et que je l'accepte et m'y implique sincèrement, quoi qu'il en coûte. C'est un effet de sa grâce. Et c'est cette grâce que nous chante d'ailleurs maintenant Fred Flore.
Elle ne s'explique pas, elle ne s'achète pas. Elle ne tient jamais ses comptes, elle efface, cache la honte. Elle a l'élégance, l'indulgence d'offrir au laissé pour compte une part de providence. Et son regard baigné d'innocence se pose sur nos cœurs. Laisse-la te toucher. Laisse-la t'embrasser. Quand elle te touche, un ange passe. Quand elle t'embrasse.
Eh bien, nous arrivons au terme de cette rencontre avec ses disciples et le texte termine donc avec une parole toute simple et forte de Jésus à Pierre. Toi, suis-moi. Toutes les conséquences de la résurrection que je viens d'évoquer nous conduisent finalement à ces simples mots. Toi, suis-moi. Et la quatrième leçon pour nous encore aujourd'hui est que le Christ ressuscité, celui qui vient à ma rencontre, celui qui donne un impact à ma vie, celui qui restaure mon âme, est le même qui m'appelle à le suivre. Ce « suis-moi » sonne alors pourtant de façon assez curieuse dans le contexte. Suis-moi, mais en même temps, il y a ce départ de Jésus qui suit presque aussitôt. Il y a cette ascension où justement je ne peux plus concrètement le suivre, du moins le suivre comme auparavant, comme on suit quelqu'un de présent. L'ascension devient une étape et un envoi. Désormais, il faut le suivre dans son absence, mais envoyé par lui, et puis avec un souffle présent et poussant en avant. Le suivre en partant, en allant ailleurs, en élargissant l'espace de notre habitation, en quittant notre zone de confort, et puis pour les disciples présents, passer très concrètement de Jérusalem à jusqu'au bout du monde. C'est vous qui êtes mes témoins. Et vous, eh bien c'est nous. Finalement, ce Jésus qui part et devient absent se retrouve partout dans le monde, plus que jamais présent, en nous, mais surtout au travers de nous. Car l'Évangile ne s'écrit maintenant qu'en le vivant. À ce propos, faisons une pause encore dans notre réflexion pour écouter le chanteur et musicien lyonnais Johann Salva.
Parlez-moi d'amour, le vrai, le pur, le beau, pas celui des princesses qu'on trouve dans les grands châteaux. Parlez-moi des rêves de votre réalité, que vos voix s'élèvent, le compte à rebours a commencé. Parlez-moi d'amour et donnez-moi l'envie d'aimer à mon tour, tant que cela m'est permis. Parlez-moi d'amour et que l'on n'oublie jamais que l'on ne gagne rien lorsque nos poings restent serrés. Parlez-moi d'amour, vous messieurs et vous mesdames, quels sont vos discours pour venir raviver la flamme. Parlez-moi des actes que vous faites au quotidien pour avoir un
Nous étions en compagnie du pasteur Jean-Luc Cadreau de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes de France et je vous propose maintenant un temps de prière. Seigneur, je veux te prier pour toutes les personnes à l'écoute du service protestant. Tu connais chacun personnellement et tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais les épreuves que nous avons vécues pendant le confinement. Tu connais nos moments de solitude, ceux dont on ose parler et ceux que l'on garde secrets. Tu connais notre espérance pour un monde meilleur, une vie meilleure, des relations restaurées. Alors viens nous rencontrer, viens nous visiter. Viens construire avec nous une relation pour nourrir et inspirer toutes les autres relations. Seigneur, nous aussi nous sommes confrontés à l'absence physique d'un Dieu qu'on pourrait voir après la montée de Jésus au ciel. Alors ouvre nos cœurs au Saint-Esprit, à cette force envoyée pour consoler, défendre, enseigner et inspirer. Apprends-nous à prier lorsque nos yeux ne peuvent te voir. Fais-nous ressentir ta présence dans nos vies et dans le monde. Et aide-nous à être acteurs de ton projet, projet de paix, d'amour et de vérité. Enfin, Seigneur, je voudrais te prier pour ce fameux monde d'après. Que cette crise nous laisse des enseignements d'amour et de solidarité, plutôt qu'un sentiment de peur et de méfiance. Que la maladie et la mort nous enseignent à quel point cette vie fragile est un cadeau, une pure grâce, et que nous n'en sommes pas propriétaires. Remplis-nous de reconnaissance et de louange pour toutes les personnes guéries, et laisse en nous l'espace pour accueillir ceux qui sont encore dans la détresse. Que ton Saint-Esprit règne en chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Je vais pas te faire de prêchi-prêcha, style, il est mort pour toi, et tout le tralala, tout ça, tu le sais déjà. Et si tu le savais pas, je m'en fous les grosses ficelles, ça m'a toujours filé un mauvais goût. Et puis je t'aime trop, tu sais, pour te filer de la conserve. L'amour préfabriqué, ça donne un peu la gerbe. Ces messages qu'on débite pour se donner bonne conscience, c'est pire que prendre une cuite quand tu dessoules. Fini l'ambiance. Alors prie, accueille le ciel en toi. Prie. N'aie pas peur du silence. Ouvre ton cœur et sens. C'est comme une présence. Prie.
Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories, à la réalisation Viviane Noël et Jean-Christophe Francis. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant 47 rue de Clichy 75 009 Paris, ou encore mieux, par email à cette adresse communication@fédérationprotestante.org. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestant@pluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant service protestant. À noter également que le protestantisme français s'engage face à la crise du Covid-19 avec la plateforme www.solidaritéprotestante.org pour mieux faire vivre la fraternité en ces temps difficiles. Bonne journée à vous sur France Culture.
T'es tout beau en couleur, tu sauras discerner. Fais-toi confiance, c'est le défi que te lance la vie. Alors prie, accueille le ciel en toi. Prie, une fois, dix fois, cent fois. N'aie pas peur du silence, ouvre ton cœur et sens la joie d'une présence. Prie, et tu gagneras du temps.